Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 8000 euros d'amende à l'encontre de Jean-Marie Le Pen avec la possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement. Voici ce qui a été requis hier après des propos homophobes du cofondateur du Front National. Nous étions à l'audience. Vous entendrez ensuite les inquiétudes de la présidente du Conseil National des Barreaux. Inquiétudes face aux jeunes qui ne savent pas comment porter plainte s'ils doivent le faire. En Italie, le gouvernement réduit finalement ses prévisions de déficit. Il maintient tout de même ses promesses de campagne et notamment le revenu citoyen, mais lui aussi a été modifié pour rassurer les économistes. Et puis en fin de journal, nous irons en Inde où se tient le premier sommet de l'Alliance solaire, une organisation qui s'étend maintenant à tous les pays du monde. Jean-Marie Le Pen serait agonisant sur son lit d'hôpital, ses jours sont comptés. Voici ce qu'affirmait hier son avocat au tribunal correctionnel de Paris. Le cofondateur du Front National n'était pas présent au tribunal. À 90 ans, il était poursuivi pour provocation à la haine ou à la violence et injure publique envers les homosexuels. Il s'en était notamment pris aux policiers tués dans l'attentat des Champs-Élysées l'année dernière. Récit d'audience avec Antoine Marette.
Étienne Cardilès est partie civile dans cette affaire. Son mari, Xavier Jugelet, a été tué dans une attaque terroriste. Jean-Marie Le Pen avait critiqué son discours lors de l'hommage national en affirmant « Je pense que cette particularité familiale, sous-entendu l'homosexualité, doit être tenue à l'écart de ce genre de cérémonie ». Étienne Cardilès raconte le déchaînement de haine sur les réseaux sociaux après la mort de son époux. L'avocat de la Défense lui demande « Pensez-vous vraiment qu'il y a un lien entre ces messages homophobes et les propos de Jean-Marie Le Pen, ça a pu les attiser, répond Étienne Cardilès. Vous réclamez 30 000 euros de dommages et intérêts. Est-ce que vous avez besoin d'argent ? Poursuit Maître Joachim. C'est la classe à Dallas, s'indigne un avocat de la partie civile. Arrive ensuite le témoin inattendu dans cette affaire, Laurent de Saint-Afrique, assistant parlementaire de Jean-Marie Le Pen. Je suis moi-même concerné par l'homosexualité, affirme l'homme la soixantaine élégante. Cela fait 30 ans que je connais Jean-Marie Le Pen. Je ne l'ai jamais vu parler de façon vulgaire de l'homosexualité en privé. Et quand votre employeur a assimilé l'homosexualité à la pédophilie, est-ce que cela vous a choqué ? Lui demande le président. Je ne l'aurais pas dit, je comprends que ça ait pu choquer, mais c'est un débat qui existe dans la communauté homosexuelle, répond Laurent de Saint-Afrique. La procureure dénonce les propos de Jean-Marie Le Pen, une exhortation claire selon elle à la mise au ban des homosexuels. Elle réclame pour l'ancien leader du Front National 8000 euros d'amende avec la possibilité d'emprisonnement en cas de non-paiement.
Ce procès-là est emblématique, le symbole de la désindustrialisation d'une partie de la France et des luttes sociales qui s'en suivent. 4 ans après la fermeture de leur usine de pneus à Amiens-Nord, les anciens Goodyear sont devant les prud'hommes aujourd'hui et ils sont 847 à attaquer la direction de l'entreprise, contestant leur licenciement économique en 2014. Pour l'occasion, le procès est délocalisé au Zénith d'Amiens. A-t-on le droit de porter plainte, même jeune, vers qui se tourner en cas de violence, de harcèlement, de cyberharcèlement ? Autant de questions que pourront poser aujourd'hui certains collégiens. Plus d'un millier d'établissements vont participer à la première journée du droit dans les collèges. Une journée de réflexion et de débat entre avocats, enseignants et élèves, dans une matière qui n'est pas enseignée dans le secondaire. Et il y en a bien besoin, selon Christiane Ferral-Schul, la présidente du Conseil national des barreaux.
Je suis frappée de voir à quel point les jeunes peuvent ne pas mesurer les conséquences de leurs propos et des éléments, photos, vidéos ou autres qu'ils véhiculent. Ils ne mesurent pas la gravité des préjudices qui peuvent en résulter. Ils ne comprennent pas toujours que l'Internet, c'est une mémoire d'éléphant et que le préjudice peut ne pas être réparable. C'est malheureusement souvent le cas. J'avais été à la rencontre de jeunes dans une école il y a quelques années, et à cette occasion, un jeune, timidement, a demandé la parole et a posé la question de savoir s'il pouvait seul aller dans un commissariat. Et nous avons compris avec son maître d'école qu'il y avait un message qui s'est révélé exact. C'était un gamin qui faisait l'objet de violences et qui ne savait pas qu'il pouvait aller porter plainte. Il y a beaucoup de détresse et en particulier chez les jeunes parce qu'ils ne connaissent pas toujours leurs droits. C'est une invitation à se poser des questions, à réfléchir.
La présidente du Conseil national des barreaux, Christiane Feral-Schuhl, avec Florence Turm. Pour l'édition 2018, le thème choisi par le ministère de l'Éducation nationale et le CNB est celui des règles de droit sur les réseaux sociaux. Le braqueur Redouane Faïd, interpellé hier matin, a été incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Ouverte il y a 3 ans, il s'agit d'une des prisons les plus sécurisées de France. Redouane Faïd y sera placé à l'isolement, probablement sans voisin de cellule, car le risque d'évasion est maximal. Il s'est déjà évadé 2 fois. Emmanuel Macron se rend ce matin sur la tombe du général de Gaulle à Colombelles-les-Deux-Églises. Une visite prévue de longue date, mais qui tombe en pleine crise après la démission de Gérard Collomb. Le chef de l'État prononcera ensuite, en fin d'après-midi, un discours devant le Conseil constitutionnel à l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution. L'Italie peaufine son budget pour apaiser les inquiétudes des marchés et pour rassurer Bruxelles. Le déficit italien ne sera finalement pas porté à 2,4% du PIB pour les 3 ans à venir. Il baissera en 2020 de 2 à 2,1%, puis à 1,8% en 2021. Un déficit qui permettra tout de même de financer la promesse électorale du ministre du Travail, Luigi Di Maio. Le leader du mouvement 5 étoiles a inséré dans le budget un revenu citoyen à hauteur de 780 € par mois, même s'il lui a adjoint de nombreuses restrictions pour calmer les inquiétudes, Olivier Tosseri.
Il doit abolir la pauvreté et redonner un futur à 6,5 millions de personnes à partir du 1er avril prochain. Pour les marchés financiers, le revenu citoyen qui coûtera à l'État 10 milliards d'euros est un danger pour l'équilibre budgétaire italien. Luigi Di Maio a donc été contraint de multiplier les restrictions. Les 780 € ne pourront être perçus que par les Italiens ou des étrangers résidant en Italie depuis au moins 10 ans, dont le revenu est inférieur à 9 360 € par an. Pour les propriétaires de leur logement, le revenu citoyen sera abaissé à environ 400 €. Il ne sera plus versé au troisième refus d'une proposition soumise par l'un des centres pour l'emploi. Problème, ils ne sont pour l'instant que 500 dans tout le pays, souvent mal équipés, avec un personnel âgé, précaire, peu formé et peu nombreux. Pour limiter les fraudes, Luigi Di Maio promet que le revenu citoyen ne pourra être utilisé qu'avec une carte électronique dans des magasins italiens pour contrôler la traçabilité des dépenses et favoriser la reprise économique. « Nous investissons sur le sourire des Italiens », a-t-il déclaré. Les marchés et la Commission européenne ont déjà perdu le leur.
40% des émissions de CO2 de voitures et de poids lourds en moins dans l'Union européenne. Le Parlement ambitionne d'y arriver pour 2030. La Commission européenne, elle, propose 30% d'émissions en moins. Cette baisse de CO2 s'entend sur la moyenne des émissions de gaz carbonique de l'ensemble des véhicules vendus par un constructeur, modèles électriques compris. Les eurodéputés vont maintenant devoir négocier avec les États membres. Mieux respirer et mieux produire. Là, c'est l'ambition des pays de l'hémisphère sud via l'Alliance solaire internationale. C'est une organisation qui a été inaugurée en mars dernier et qui doit aider les pays, particulièrement les plus pauvres, à accéder à l'énergie solaire à bas prix. Une première session de cette alliance a eu lieu cette semaine en Inde, en présence de la secrétaire d'État française à la transition écologique. Et l'une des décisions majeures qui a été prise a été d'ouvrir cette organisation à tous les pays du monde. Cela ouvre les portes à plus de financement, Sébastien Farcy.
Les pays qui ont le plus grand potentiel de développement en énergie solaire se trouvent bien sûr sous les tropiques. Cette alliance solaire internationale leur était donc destinée. Mais cette restriction empêchait d'autres États intéressés, comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, d'en bénéficier. Et surtout, cela excluait des pays européens qui pouvaient, eux, apporter expertise et financement, comme l'explique la secrétaire d'État au ministère de la Transition écologique, Brune Poirson.
Il y a beaucoup de pays, comme par exemple l'Allemagne, qui ont des solutions tout à fait intéressantes et innovantes dans le domaine de l'énergie solaire, il faut que l'Alliance puisse en bénéficier aussi. De même qu'il y a d'autres pays, au-delà des tropiques, qui ont des capacités et des besoins en développement solaire, et ils doivent aussi, ces pays-là, en bénéficier.
La France a promis d'attribuer d'ici à 2022 1 milliard d'euros de prêts aux pays de l'Alliance solaire. 800 millions ont déjà été attribués et l'essentiel est allé aux pays africains. Cela a entre autres permis de financer la plus grande ferme solaire du Sénégal, d'une capacité de 30 mégawatts. L'Alliance solaire internationale a également créé un réseau de centres de formation dans le solaire qui permet aux pays du Sud de bénéficier de l'expertise de chercheurs pointus dans le domaine, venant de France et d'Inde, entre autres. L'objectif de l'Alliance solaire à terme est également d'influencer sur les choix des compagnies énergétiques en créant un cadre qui inclut la notion de risque climatique dans les investissements et rend ainsi bien moins cher de financer des fermes solaires que des centrales à charbon.
En France, il y aura aussi du soleil aujourd'hui, sauf sur l'extrême nord du pays où les nuages bas seront nombreux ce matin. Côté température, comptez 13 degrés à Strasbourg, 15 à Rennes et Lille, 16 à Amiens et Paris. Au sud du pays, il fera entre 17 et 23 degrés.